ensemble. Je mets ça là, attendez, hop. Et je voudrais partager avec vous une histoire de l'Ancien Testament qu'en principe nous connaissons bien. Alors ce message, il fait suite, ce n'est pas une suite, mais c'est une continuité à un petit peu à ce qu'on a vu mardi soir, ce qu'on a vu vendredi soir, et c'est un petit peu dans la continuité. On va aller dans la Genèse, chapitre 16, livre de la Genèse, chapitre 16, et on va lire les 11 premiers versets. Livre de la Genèse, chapitre 16, verset 1er. Il dit ceci: Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham: Voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Et quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Saraï dit à Abraham: L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Saraï: Voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva, parce que comme on l'a vu mardi soir, Dieu nous trouve toujours. On peut s'enfuir, mais Dieu nous trouve, hein, là où on est. Donc l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit: Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit: Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit: Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit: Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit: Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Amen. Amen. Voilà, alors en fait, ce message, et je voudrais commencer par là, il a une petite histoire. Il a un contexte. Suite à la mission que nous avons eue il y a 15 jours avec le frère Mouraud, je pense que ceux qui étaient là, vous vous en rappelez. Si vous vous en rappelez pas, c'est enregistré sur le site de l'église, vous pouvez réécouter. Je l'ai réécouté. Personnellement, je l'ai fait. Je l'avais entendu, j'y étais, mais j'ai repassé. Vous voyez? Hein, où le frère a traité ce sujet du pardon. Donc le dimanche soir après la mission, le soir, avant d'aller me coucher, je suis allé dans mon bureau et ben, j'ai passé un moment devant le Seigneur et pour le remercier pour ce que j'en avais entendu. Et pour ces temps où vraiment le Seigneur avait dit des choses, avait mis des choses là. Et donc je suis allé me coucher. Et puis le matin, vers 5h moins le quart, je me suis réveillé, et ça m'arrive pas tout le temps, je vous rassure, mais ce matin-là, je me suis réveillé à 5h moins le quart, et j'avais un texte dans mon esprit qui était fort, une histoire de la Bible qui était là dans mon esprit, et c'était vraiment fort. Vous vous réveillez, et vous avez ce texte-là dans la tête, vous voyez? Et c'était cette histoire-là, celle qu'on vient de lire. Donc j'étais dans le lit, je réfléchissais, puis je me suis levé et je suis allé dans le bureau et j'ai lu cette histoire, je l'ai relue comme on vient de le faire ce matin, je l'ai lu plusieurs fois. Et à un moment donné, comme ce n'est pas quelque chose qui m'arrive souvent, j'ai dit: Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Et là, alors, je vous rassure, je n'ai pas entendu de voix, je ne suis pas encore comme Jeanne d'Arc, hein, je vous rassure. Mais ça a été très clair. Ça a été très clair, une conviction. C'était ceci. Voilà ce que je veux que tu comprennes, que tu réalises et que tu dises. C'est que on ne réalise pas toujours toutes les grâces et toutes les bénédictions qui découlent dans nos vies quand on sait s'humilier. On ne réalise pas toujours tout ce que Dieu est capable de faire, de mettre en route, quand on a un cœur qui sait s'humilier. Alors bien sûr, dit comme ça, vous dites, ouais, mais quel est le rapport? On va reprendre l'histoire ensemble et vous allez voir que ça a du sens. Bien sûr, à la base, cette histoire, elle commence par quelque chose qui nous surprend. Nous, quand on lit ça avec notre regard d'aujourd'hui, de 2017, 2018, on est un peu surpris. Une épouse qui met dans les bras de son mari une autre femme, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne s'étonne plus de rien. Il y a tellement de choses qui se font que les gens ne sont plus étonnés de rien. Mais enfin, c'est vrai que quand même, quand on lit cette histoire, on est quand même un peu surpris par la méthode, par la façon de faire. On se dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Il faut savoir, vous le savez, je l'ai déjà dit, je vais le redire ce matin, que c'était quelque chose qui se pratiquait à cette époque-là. Vous voyez, c'était quelque chose qui se faisait. C'était quelque chose même de légal. Vous voyez, les gens n'étaient pas surpris. Ils ne se disaient pas, qu'est-ce qu'il fait? Non, non, c'était une pratique courante à l'époque. Mais nous savons que quelque part, ce n'était pas ce que Dieu voulait, lui, dans cette situation-là, dans ce problème-là. Ce n'était pas ça que Dieu voulait. Je crois déjà que quelque part, ça nous enseigne déjà une chose, c'est que quand on prend des raccourcis par rapport à ce que Dieu nous demande, quand on prend des raccourcis par rapport à la parole de Dieu, inévitablement, les problèmes ne vont pas tarder à arriver à un moment donné ou à un autre. Et c'est ce qui s'est passé dans cette histoire. Hein. Au verset 4, il alla vers Agar, Abraham, elle devait enceinte, et ça n'a pas manqué, tout de suite les problèmes sont arrivés, quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Voyez, je voudrais peut-être, concernant ce point-là, juste ouvrir une parenthèse que je vais refermer parce que c'est pas ce que je veux voir avec vous ce matin, mais je pense quand même que c'est important de le dire et de le souligner. C'est que, mon frère, ma sœur, attention à tous les raccourcis que le monde mettra sous nos yeux, que le monde nous proposera, que l'ennemi de notre âme va essayer de mettre là sous nos pas. Attention à toutes ces choses où aujourd'hui, bien entendu, un petit peu comme à l'époque d'Abraham. Je l'ai dit, cette façon de faire, elle était courante. Ça se faisait. Tout le monde le faisait. C'était comme ça. Attention aujourd'hui à toutes ces choses, tout ce que j'appelle moi des raccourcis, où peut-être on nous dit, mais c'est comme ça aujourd'hui, tout le monde le fait, ça choque plus personne, et puis c'est normal, et puis ça fait de mal à personne. On sait ce que la Bible dit, mais enfin, on prend un raccourci parce que ça va plus vite et puis ça nous arrange. Attention à toutes ces choses. Et peut-être ce matin, le Seigneur voudrait peut-être dire à quelqu'un, de manière précise, à un de ses enfants, mais tu es en train de prendre un raccourci là qui ne t'attirera que des difficultés. Regarde ce qui s'est passé, tout de suite les difficultés ont été là, tout de suite les problèmes ont été là. Il y a un raccourci qui a été pris et à un moment donné, eh bien, tout de suite ou presque, les difficultés se sont amoncelées. Et je crois que c'est important de réaliser que ce principe-là, il est encore pour nous aujourd'hui. Quand on commence à prendre des raccourcis par rapport à ce que la parole de Dieu enseigne, par rapport à ce que Dieu nous dit, par rapport à ce que Dieu montre, par rapport à ce qu'il approuve ou il n'approuve pas, forcément qu'à un moment donné, les problèmes vont arriver. Alors je referme la parenthèse. Donc, il va vers Agar, elle devient enceinte, elle se voit enceinte, elle regarde sa maîtresse avec mépris. Et c'est là que l'histoire, j'allais dire, commence et m'intéresse un petit peu plus. C'est ce qui se passe après. C'est ce qui se passe après. Donc, au verset 6, vous avez remarqué que Sarah va se plaindre. Elle va se plaindre. C'est quand même bizarre. Hein. C'est elle qui lui met... puis après, elle va se plaindre. Bon, bref. Moi, ça me fait réfléchir, vous voyez. Elle va se plaindre à son mari et verset 6, Abraham va répondre, j'ai presque l'impression qu'il dit, écoute, débrouille-toi, hein. C'est un peu ça, quoi. Écoute, hein. Moi, voyez, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. J'ai un peu l'impression qu'il dit, écoute, je ne veux pas entendre parler, hein, débrouillez-vous. À mon avis, il a peur du crépage de Chignon, il s'est dit, je ne veux pas me trouver au milieu. Voyez, hein. Et il nous est dit, alors... Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Voyez. Alors, c'est vrai que ce que Agar avait fait en méprisant Sarah, c'était pas bien. On le sait tous, le mépris, c'est jamais un bon chemin. Quand on méprise quelqu'un, quelle qu'en soit la cause ou la raison, on ne sera jamais approuvé de Dieu. Quand on emprunte la voie du mépris, quel qu'il soit, quelle qu'en soit la cause ou la raison, il n'y a rien qui justifie de mépriser les gens. Voyez. Alors c'est vrai que, quelque part, ce qu'avait fait Agar en méprisant sa maîtresse quand elle s'est vue enceinte, ce n'était pas bien. Mais la réaction de Sarah, quand elle va maltraiter, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière le mot maltraiter, il faudrait peut-être regarder dans le texte original, dans le texte hébreu, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce qu'elle lui a fait, je ne sais pas comment elle s'y est prise, mais enfin, si la Bible dit qu'elle la maltraita au point qu'elle a été obligée de partir, c'est qu'elle a dû y mettre le compte. Hein. À mon avis, ça n'a pas dû. Hein. Deux hommes, quand ils se... c'est pas mal, mais alors deux femmes, c'est pas mal non plus. Vous voyez, je mets tout le monde sur le même pied d'égalité, je ne veux pas avoir de problème à la sortie. Hein. Mais ça nous rappelle quand même une chose, c'est qu'on n'est pas responsable de l'attitude des autres. Hein. On n'est pas responsable de leur agissement, de ce qu'ils peuvent nous faire. Mais par contre, on est responsable de nos attitudes à nous. On est responsable de nos réactions à nous. On est responsable de nos comportements, de nos paroles à nous. Et donc, Agar, elle s'enfuit. Et là où je voudrais un petit peu mettre l'emphase ce matin, où je voudrais un petit peu mettre le projecteur, c'est sur ce que Dieu va lui dire. L'ange de l'Éternel, verset 9, lui dit « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » C'est facile à lire. Hein. Essayez de vous imaginer un peu la scène. Essayez de vous mettre un peu à la place de Agar. « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Et quelque part, moi j'entends Agar. Vous voyez, c'était il y a des siècles, mais je l'entends. Enfin, Seigneur, t'as vu ce qu'elle m'a fait ? T'as vu ce qu'elle m'a fait ? T'as vu ce qu'elle m'a mis ? T'as vu ce qu'elle m'a fait subir ? T'as vu les mots qu'elle a employés ? T'as vu le ton qu'elle a eu à mon égard ? Et tu veux que je retourne ? Et j'entends le Seigneur lui dire, je sais, mais retourne et humilie-toi. Je sais. Vous savez, je me rends compte d'une chose et c'est là que je me dis, waouh, Seigneur, ta parole, elle est quand même tellement actuelle. Dans cette affaire de Agar et Sarah, il n'y en avait pas une qui était blanche et l'autre noire. Elles avaient toutes les deux leurs responsabilités. Toutes les deux. Il n'y en avait pas une plus que l'autre. Voyez, j'ai envie de dire, comme dans toutes les affaires, dans 99,9% des cas, et je veux bien qu'il y ait toujours l'exception qui confirme la règle, mais enfin, dans 99,9% des cas, dans une situation, il n'y en a jamais un qui est tout blanc et l'autre tout noir. C'est pas vrai. Il y a toujours une part d'un côté et une part de l'autre. Et j'ai envie de dire, même si on peut estimer, alors après ça c'est les estimations, vous voyez, mais si on peut estimer qu'il y a 70% d'un côté et qu'il y a 30% de l'autre, eh bien les 30% ils y sont. Et on ne peut pas dire, oui mais l'autre il a 70%. Oui mais toi tu en as 30%. Et les 30% on ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas. Comme s'ils n'étaient pas là, voyez. Et nier ça, que quelque part il n'y en a jamais un tout blanc et l'autre tout noir, nier cette réalité, c'est être dans le déni, quoi. On est dans le déni, voyez. Peut-être dans cette histoire, moi je ne sais pas, j'essaie de réfléchir, vous aviez d'un côté les partisans de Agar. Ouais, mais c'est pas bien ce que Sarah lui a fait quand même. Elle l'a traité comme une moins que rien, etc., etc. Bon, c'était une servante, mais en fait quand même. Oui, quand même. Et puis vous aviez les partisans de Sarah. Ouais, mais tu aurais vu comment elle l'a méprisé, comment elle l'a regardé, elle l'a toisé. Bon, elle l'a démoli, c'était des mitraillettes, ses yeux. Vous aviez les partisans d'un côté de l'une et peut-être les partisans de l'autre. Ça, c'est Cyril qui le dit, mais c'est quand même là pour nous faire réfléchir, voyez. Quand même là pour nous faire réfléchir. Et pourtant, Dieu va dire à cette femme, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Et regardez, moi ça m'a interpellé, verset 10. L'ange de l'Éternel va dire à Agar, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Autrement dit, il y a une promesse de Dieu là, qui s'est accomplie d'ailleurs. Il y a une promesse de Dieu et il y a une belle leçon spirituelle pour chacun d'entre nous ce matin et pour Cyril le premier. C'est qu'il y a des bénédictions pour ceux et celles qui savent s'humilier, même si on n'a pas tous les torts. Ouais. Il y a des grâces extraordinaires qui sont pour ceux et celles qui savent s'humilier, même si les torts sont partagés, même si je pense qu'il y en a peut-être un peu plus d'un côté que de l'autre. Il y a des grâces et il y a des bénédictions. Pour Agar, Seigneur, elle va dire, elle m'a maltraité. Pour Sarah, oui, elle m'a méprisé. Mais Dieu va dire à Agar, retourne. Retourne. Et humilie-toi sous ta main. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on peut lire la suite, vous lirez la suite un petit peu. La Bible ne parle pas des retrouvailles. Vous avez remarqué ? J'ai regardé, j'ai dit, mince, moi j'aurais bien aimé savoir un petit peu. La Bible ne dit rien. Mais elle est revenue. Ça, on le sait. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Ça n'a pas dû être simple de revenir et de s'humilier. Mais elle l'a fait. Ça s'est passé peut-être entre les deux, là. Entre les deux femmes, ça s'est passé. Personne n'était là. Dieu était là, mais personne n'était là. Mais elle l'a fait, vous voyez. Elle l'a fait. Et parce qu'elle va le faire, elle va s'humilier, Dieu va bénir cette femme. Parce qu'elle s'est humiliée, Dieu va la bénir. Et quand j'ai réfléchi à ça, moi, et par rapport à tout ce qu'on a entendu dans ce week-end, ça m'a interpellé, quoi. Ça m'a interpellé. D'autant plus que quand on y réfléchit, et là je vais un petit peu plus loin, je vais revenir de temps en temps à Agar, hein. Mais n'est-ce pas ce qu'a fait Jésus ? Ouais. Rappelez-vous ces paroles de l'apôtre Paul qu'on connaît par cœur. Regardez Philippiens chapitre 2, versets 7 et 8. On connaît ces versets. En parlant de Jésus, il nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus s'est humilié. Il n'était pas obligé de le faire. Et la grande différence entre Jésus et nous, c'est que j'ai dit tout à l'heure que dans toute histoire, dans toute affaire, il y a toujours des torts des deux côtés, même si peut-être, alors après on peut discuter sur les histoires de pourcentage, il y a toujours un tort là et un tort là, où, etc. Mais Jésus, lui, il n'avait aucun tort. C'est ça la grande différence. Jésus, lui, n'avait aucun tort. Il n'était pas obligé de le faire. Il n'était pas obligé de s'humilier. Mais il l'a fait. Rappelez que Pilate va dire, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Il était innocent. Il n'avait rien. Il n'y avait rien à dire. Et même le brigand sur la croix va dire, pour nous c'est justice, nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Vous voyez ? Donc, les autres disent de Jésus, mais il n'avait pas à le faire. Il n'avait pas à le faire, mais il l'a fait. Il s'est humilié lui-même alors que lui, il n'avait aucun tort. Contrairement à nous. Il s'est humilié. Et vous avez le principe spirituel, là, vous voyez, qui est là pour chacun d'entre nous. Le problème est, et je vous rassure, hein, je vous le dis ce matin, ce que je vous prêche ce matin, je le dis vraiment avec beaucoup d'humilité. Parce que je pense qu'à ce niveau-là, on n'est pas plus forts les uns que les autres. Hein. Et celui qui est devant vous, il n'est pas plus fort que vous. Hein. Mais s'humilier, c'est pas quelque chose que notre chair, elle aime. Hein. Non. Nous, on est des Gaulois. On est des Gaulois, nous. Oui. On est des revendicatifs. Alors, n'y voyez aucun. Nous, on est le pays des syndicats. Et j'ai rien contre. Là, en plus, je ne veux pas avoir de problème. Vous voyez ? Donc, s'humilier. Seigneur, tu as vu ce qu'il m'a fait ? Tu as vu ce qu'elle a dit ? Tu as vu cela ? On n'aime pas. On n'aime pas. Vous voyez ? Mais Jésus nous montre l'exemple. Alors que lui, il n'avait aucun tort. Regardez, on va un petit peu plus loin. Je vais vous mettre deux, trois autres passages devant nos yeux, quelques textes. Il y a un verset qu'on connaît par cœur, les chrétiens. Et ça m'a un peu interpellé parce que donc, ce message, il est prêt depuis 15 jours. Je n'ai pas attendu hier pour le faire, ni avant-hier. Mais donc, depuis 15 jours, je l'ai. Et donc, depuis ce fameux matin. Ça, c'était le lundi matin. Et je me souviens qu'on est arrivé à la réunion le mardi soir. Ce mardi soir-là, c'était Bernard qui prêchait. Et c'est Marcelin qui faisait les chants. Et Marcelin, il a commencé la réunion par ça. Ceux qui étaient là vont en rappeler. Et moi, bien entendu, quand je l'ai entendu partir comme ça, ça m'a fait tilt, parce que c'est ce que j'avais reçu dans cette nuit-là. Voyez, c'est un verset qu'on connaît. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et C'est un verset que j'ai entendu citer tellement de fois, qui est tellement bon, qui est tellement extraordinaire. Il y a des promesses de bénédiction, etc., etc. Mais vous avez remarqué, je l'ai relu, je le lis, et ça m'a interpellé parce que il y a des conditions quand même. Ben oui, il y a des conditions. On veut de la grâce de Dieu, on veut de l'action de Dieu, mais qu'on le veuille ou non, il y a des conditions. C'est pas tu fais, je te ferai. C'est pas dans cet esprit-là. Mais regardez, et la première des conditions, c'est quoi? C'est s'humilier. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, premièrement, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est tout ça qui va ensemble. C'est tout ça qui va ensemble. Et ce que je voudrais dire concernant ce point-là, le premier point, c'est s'humilier, ça commence par là, c'est que on peut faire tout le reste. On peut prier, on peut chercher la face de Dieu, on peut se détourner de certaines choses. C'est très bien. Mais si on saute la première étape, ça ne marchera pas. Ben ouais. Et vous savez, parfois, ça va peut-être vous surprendre ce que je vais dire, mais on peut se cacher derrière la prière. On peut se cacher derrière des jeûnes et des prières. On peut se cacher derrière ces choses-là pour ne pas faire quelque chose que Dieu nous demande. Mais je prie. Combien de fois on m'a dit, mais vous savez, frère, je prie, hein? Je prie. Ouais, mais le problème, c'est que peut-être, avant de prier, il faut passer par la première étape, c'est s'humilier. Parce que sinon, vous voyez, il y a des situations où, pour que Dieu agisse, ça commence par là. Vous voyez? Regardez, un autre contexte, comme pour vous montrer que ce n'est pas une vérité isolée par-ci, par-là. On le voit avec Agar, on le voit dans ce texte de Chroniques 7,14. Mais regardez, dans le livre du prophète Jérémie, un autre contexte, Dieu s'adresse à son peuple, à des Juifs qui vivent en Égypte. Et regardez ce qu'il leur dit. Jérémie 44, il leur dit ceci, il parle à ses enfants là. « Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. » Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ne sont pas revenus de la méchanceté et ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. Ok, il y a un contexte. Ce que je note ici, c'est que dans ce contexte-là, ce n'est pas faute que Dieu ait parlé. Hein. Ce n'est pas faute que Dieu ait dit des choses. Dieu est venu, il est revenu, il a parlé plus d'une fois. J'ai envoyé les prophètes dès le matin, il y a comme une insistance pour montrer, mais je n'ai pas arrêté de vous parler, quoi. Comme je le crois, Dieu n'arrête pas de parler. Hein. Dieu parle. Si on a une oreille ouverte, un cœur ouvert, si on n'est pas sourd, je pense qu'on entend quand même. Je veux dire. Et regardez la suite. On saute quelques versets, un petit peu plus bas, versets 10 et 11. Et Dieu dit, ils ne se sont point humiliés jusqu'à ce jour. Ils n'ont point eu de crainte, ils n'ont point suivi ma loi et mes commandements que j'ai mis devant vous et devant vos pères. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici je vais tourner ma face contre vous, etc., etc. Mais le verset 10, c'est la première chose que Dieu fait ressortir. Ils ne se sont point humiliés jusqu'à ce jour. Parce que c'était ça que Dieu attendait dans ce contexte-là. C'était ça que Dieu attendait. C'était le premier point, c'était le premier pas. Il fallait commencer par là. C'est ça qui allait être l'élément déclencheur de l'action de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'intervention de Dieu. Vous voyez, c'était ça. Et je crois que ce message-là, il est toujours d'actualité. Il y a des situations pour que ça se débloque. Il faut s'humilier. Il faut s'humilier. Et je me dis, en pensant à cet exemple-là de Jérémie, c'est qu'il y a parfois des vies chrétiennes qui stagnent, qui sont figées, qui n'avancent pas. Ça végète, ça tourne en rond. C'est pas qu'on n'aime pas le Seigneur. Non, c'est pas qu'on n'aime pas le Seigneur, parce qu'au fond de notre cœur, on aime le Seigneur. Mais parfois, il y a le fait que on refuse de s'humilier. Alors on a nos raisons, hein, on a toujours nos arguments, on a tout ce qu'il faut, mais on refuse. Et quelque part, on est dans le même état que là. Vous voyez, ce qu'on retrouve là, on le retrouve encore aujourd'hui. Le cœur de l'homme, il n'a pas changé. Hein, vous voyez, il n'a pas changé. Et il y a tellement de textes qui font ressortir cette vérité sur le fait qu'il y a des grâces extraordinaires quand on sait s'humilier. Prenez une concordance à la maison, vous allez voir. Si ceux qui ont des concordances, prenez, regardez. Moi, j'étais surpris. J'ai pris ma concordance, j'ai fait « Oh !» Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Et dans de multiples contextes, hein, vous en avez une tartine. Comme quoi, c'est quand même important, quoi. Vous voyez ? Allez, un dernier. Regardez, dans le psaume 18, regardez ce que David dit. C'est David, l'homme de Dieu, qui dit ceci. « Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. » Attention, hein. Non, mais parce qu'il... Hein? « Avec celui qui est pur, tu te montres pur, ok. Avec le pervers, il n'est pas dit que Dieu fait le pervers. Hein? » Non, non, mais il vaut mieux le... Hein? « Tu agis selon sa perversité. » Dieu agit avec nous comme on agit avec lui. Ça va ? Ouais. Dieu agit avec nous comme on agit avec lui. Vous voyez ? Et regardez le verset suivant. « Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. » Vous voyez, encore une fois. « Tu sauves le peuple qui s'humilie. » Et moi, ça m'interpelle tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça maintenant ? Quelle conclusion on apporte à tout ça ? Là, j'ai pensé à une parole de Jésus. Et je voudrais la mettre sous nos yeux et je voudrais que vraiment elle puisse nous interpeller, elle puisse nous faire réfléchir. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 16 et verset 21, il y a cette parole qui est là et qui pour moi est tellement importante parce qu'il y a un principe spirituel qui est là et que peut-être ce matin, Dieu veut mettre sous nos yeux, veut nous rappeler. Jésus qui dit « La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. » Et tu peux me laisser le verset. On pourrait passer très vite dessus, mais quand on y réfléchit, waouh, il y a un enseignement. Vous savez, ce qui m'intéresse ici, c'est le principe. La leçon spirituelle, c'est quoi ? C'est qu'il y a des douleurs qui sont nécessaires pour que la bénédiction de Dieu se manifeste. Et Jésus ici prend l'image de la femme enceinte. Alors, désolé, messieurs, là, mais nous, on ne peut pas comprendre ça. On a beau essayer, ces douleurs-là, il n'y a que les dames qui comprennent. Hein. Donc, je suppose que vous dites tout amen à ça. Hein. Ouais, tout, ouais. Voilà. Mais quelque part, quand on y réfléchit, oui, il y a les douleurs de l'enfantement, mais une fois que l'enfant est né, que l'enfant est là, quelle joie! Surtout si tout va bien et qu'il est en bonne santé. Hein, quand on met l'enfant sur le sein de sa mère, quelle joie. On oublie les douleurs qu'il y a eu avant. Et même si certains parfois disent « Oh, moi, c'est passé comme une lettre à la poste. » Bon, d'accord, mais il y en a d'autres, c'est pas comme ça. mais j'allais dire, mais c'est exactement le même chemin avec le fait de s'humilier. C'est le même cheminement. C'est le même cheminement. C'est-à-dire que c'est douloureux de s'humilier. Et je vous le dis à vous, je me le dis à moi. C'est pas facile de s'humilier. Et croyez-moi, on parle par expérience. Pas facile de s'humilier. Quand on s'abaisse. Abraham, Dieu qui dit à Agar, pardon, retourne et humilie-toi. Ça a dû être douloureux pour elle. Nous, on lit, c'est facile. Et je ne pense pas que quand Dieu lui dit retourne vers ta maîtresse et humilie-toi, c'était dans le sens bon, allez. C'est pas dans ce sens-là. Parce qu'à mon avis, elle aurait fait ça, elle se serait fait ramasser. Et elle aurait encore. Ça a dû être douloureux pour. Et parfois, c'est douloureux quand faut aller voir quelqu'un. Pour lui dire, non pas pour rappeler tout, hein, non pas pour sortir les dossiers, parce que ça, si on commence à sortir les dossiers, on ne s'en sort plus. Mais pour aller voir quelqu'un et lui dire, écoute, bon, il y a eu des choses, on ne va pas y revenir dessus, mais écoute, pour ma part, peut-être dans mes réactions, dans mes attitudes, je demande pardon. C'est douloureux, ça. C'est douloureux. Hein. Surtout que il y a un problème, c'est qu'on ne sait pas comment on va être reçu. Et là, ça... Et à mon avis, si on est tous normalement constitués, quand on envisage de le faire, qu'on prie pour ça qu'on va le faire, on fait le film avant. Je vais dire ça comme ça, je vais... Ça a dû être douloureux pour Agar. Mais une fois qu'on l'a fait, sérieusement, sincèrement, honnêtement, sérieusement, combien ça fait du bien. Et combien on sent que Dieu nous aide et que Dieu est là et que Dieu approuve. Que Dieu approuve. Et je comprends pourquoi David pouvait dire dans le psaume 32, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Tant que s'il y a quelque chose à faire, je ne le fais pas. S'il faut que je m'humilie, je ne le fais pas. Je me consume. À petit feu. Je me consume. Vous voyez ça? À tous les niveaux, vous voyez? J'aimerais vraiment, vraiment nous dire ce matin, mon frère, ma sœur, il y a des douleurs qui sont nécessaires à la bénédiction de Dieu. On prie tous pour la bénédiction de Dieu, on a raison, hein? Pour voir Dieu agir dans tel et tel domaine, dans telle situation, face à tel problème, face à tel... Et on a raison de le faire. Mais je crois, et le principe il est là, comme on l'a lu dans cette parole de Jésus, là, dans Jean 16, il y a des douleurs qui sont nécessaires. Je ne peux pas me les épargner. Et si je cherche à me les épargner, si je cherche à me les éviter, j'avancerai pas. Ça, j'avancerai pas. Ah, je pourrais toujours trouver des palliatifs. Hein. Oui, il y en aura des palliatifs. Le palliatif, c'est le premier palliatif, c'est ben je change d'église. Au moins comme ça. Ouais. Mais je vais dire une chose. Changer d'église, ouais. Mais si je le fais alors comment je vais dire ça? Je vais reprendre un exemple que j'ai entendu il n'y a pas longtemps avec le frère Moreau parce que ça m'a vraiment interpellé ça. Je peux le faire. Je veux dire, ben je préfère parce que c'est douloureux encore. Mais si au préalable, j'ai fait la démarche avant. Et je vais reprendre l'exemple de Joseph avec ses frères. J'ai bien aimé ça parce que je l'avais lu des dizaines de fois. Je n'avais jamais réfléchi à ça. Quand ils se sont réconciliés, rabibochés, là, les frères, ça a été fait honnêtement, ça a été fait sérieusement. Mais c'est vrai que quelque part, ils n'ont pas habité ensemble après. Hein. Les frères sont restés au pays de Gozen et Joseph, il est resté dans les palais. Vous voyez, permettez-moi l'expression, j'espère que je vais choquer personne, ils ne sont pas devenus cul et chemise. Hein. Vous voyez, il y a quand même eu... Mais quand même, même s'ils étaient séparés, il y avait quand même eu, avant, ce qui devait être fait avait été fait. Vous voyez. Donc après, ils étaient séparés, ok, mais le principal était fait. Donc oui, je peux pas... peut changer d'église, oui, pourquoi pas? Si à la base on a fait ce qu'il fallait. Vous voyez, on peut faire comme si de rien n'était. Ça va? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Vous voyez, s'humilier, c'est un chemin douloureux, mais c'est un chemin ô combien bénissant, qui permet à Dieu de manifester sa gloire, qui permet à Dieu de cicatriser nos cœurs, qui permet à Dieu de faire les choses qu'on ne peut pas faire. Alors oui, Agar, et je termine. Oui, Agar, retourne vers ta maîtresse. Oui, oui, tu as bien entendu, Agar. Moi, j'imagine la scène. Oui, non, non, hein, quoi? Ah, non, non, tu as bien entendu. Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Oui, je veux bien aller voir Abraham. Non, non, c'est pas Abraham que tu dois aller voir. C'est... Hein? Mais elle l'a fait. Et derrière, Dieu a béni cette femme. Dieu a béni cette femme. Et moi, ça m'interpelle et je crois que ça, c'est toujours actuel pour nous aujourd'hui. Et ce matin, je voudrais laisser ça sur notre cœur parce que je crois que c'est important. Il y a des bénédictions qui sont liées à certaines, reliées, liées à certains préalables. Et s'humilier, il n'y a peut-être pas que ça, mais en tout cas, ça en fait partie. C'est douloureux. C'est pas toujours évident, mais je crois quand même qu'il y a la grâce de Dieu. Et quand la grâce de Dieu est là, Dieu nous aide. Dieu nous donne ce qu'il faut. Bon, après, une fois que ça a été fait, après, si réaction il y a qui n'est pas bonne, après, c'est plus notre problème. Mais devant Dieu, on a fait ce qu'il fallait. Et je crois que c'est important. Et ce matin, je voudrais pas que ce soit pris dans le sens « Oh, c'est dommage, elle n'est pas la sœur, elle n'était pas là ce matin. » Donc on va lui conseiller, écoute, j'espère que ça va être mis sur le site, et écoute-la. Hein. C'est pour chacun d'entre nous, c'est pour moi aussi. C'est pour moi aussi. C'est pour moi aussi. Et je, vraiment, je, tout ce que j'ai dit ce matin, je le dis vraiment avec beaucoup d'humilité parce que je sais que ce n'est pas facile, je sais que ce n'est pas évident. On préférerait entendre autre chose. Notre chair, elle n'aime pas entendre ces choses-là. Je préférerais vous dire, Dieu vous aime, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on va prier, Dieu va nous bénir. Mais ça, ce ne serait pas la vérité. En tout cas, ce ne serait pas toute la vérité. Et je crois que c'est important parce qu'on veut de la grâce de Dieu, de l'action de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Mais je crois aussi qu'il y a des moments où ça passe par ce chemin-là. Agar a dû y passer, Dieu l'a béni. Et je voudrais que vraiment ce matin, on puisse juste prendre quelques instants. Je voudrais qu'on reprenne ce chant. Je fléchis les genoux. Je ne l'ai pas pris par hasard, ce chant. Tout à l'heure, ce n'était pas un chant pour juste le moment des offrandes, mais je l'ai dit, c'est facile à chanter. Pouh, c'était très facile. Mais quand je chante au Seigneur, je veux que tu règnes sur moi. Ouais. Je te donne ma vie et mes droits. Nos droits. Ben ouais. Que ce matin, on puisse peut-être le chanter en réfléchissant, en disant, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Et peut-être dire, Seigneur, j'abandonne entre tes mains ce que je suis pour que tu m'aides. Parce que ta grâce, ton action, ta bénédiction, je la veux. Je la veux. Sébastien, il la veut, moi aussi. Et on la veut tous. Alléluia. On peut chanter ce chant comme une prière ? Vraiment, c'est pas qu'un chant, c'est une prière qu'on fait monter devant Dieu. Et on veut lui dire de tout notre cœur. Je fléchis le genou devant toi et je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Viens Jésus, sois mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, un seul souhait. Celui de te servir et t'adorer. J'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien et je soumets ma volonté à ta divine royauté. On peut prendre juste quelques instants là devant le Seigneur. Juste quelques instants. Et mon but, c'est de mettre personne mal à l'aise. Mais on est devant Dieu et peut-être prendre quelques instants. Si peut-être juste, voilà, par rapport à tout ça, ben on a besoin de la prière. Dire, ben moi Seigneur, ouais, ok, c'est compliqué. Ben, simplement, alors qu'on est dans la présence de Dieu, on a nos têtes baissées, il n'y a personne qui regarde. Peut-être simplement, je ne vais pas vous demander de venir devant, non. Mais peut-être simplement, ben, vous vous levez à votre place. Après, c'est entre vous et Dieu. Mais au moins, quelque part, on dit, Seigneur, je veux, avec ton aide et ta grâce. Après, c'est entre nous et Dieu. Mais dans la simplicité de ce moment, ben Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Et bénis ma vie. Je ne suis pas capable, peut-être, je n'ai pas la force. Ce que tu me donnes, voilà, ça, des fois, il y a des choses, ça nous paraît. Ouf. Mais Seigneur, voilà, en me levant, je te dis, aide-moi. Aide-moi. Alléluia. Je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, tu connais mon cœur, Seigneur, je ne suis pas meilleur. Je te demande, Seigneur, vraiment de bénir ces bien-aimés qui, par ce geste, Seigneur, en se levant, manifestent le désir, qui te disent, Seigneur, aide-moi. Toi, tu sais toutes choses, Seigneur. L'histoire d'Agar et de Sarah, tu la connaissais dans les moindres détails. Et là, tout ce qui est là devant, tu le connais dans les moindres détails. On ne t'apprend rien, Seigneur. Mais, Seigneur, tu fais quelque chose de tellement mieux que nous ce matin. Tu vois dans les cœurs. Tu vois dans les cœurs. Tu vois même dans les replis des cœurs. Et tu sais toutes choses. Je te demande de bénir chacun, de donner la force. Et par ton esprit, de les visiter, de les encourager. Seigneur, merci parce que quelque part, je sais que tu vois, que ton œil est là. Tu bénis chacun, tu les aides, tu les encourages, tu les fortifies. Et Seigneur, je veux m'attendre à ta grâce pour eux. Je veux m'attendre vraiment, Seigneur, à vraiment une visitation particulière, quelque chose que seul toi es capable de faire, ce dont ils ont besoin. Seigneur, visite-les. Et je te les confie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je te confie chacune de nos vies parce qu'on a tous besoin de toi, moi le premier. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur. Bénis chaque famille, bénis cette église, bénis cette ville, bénis cette région. Seigneur, ce que nous voulons, c'est que le nom de Jésus soit glorifié, soit connu, que des hommes et des femmes te rencontrent. Alors à toi la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. J'abandonne entre tes mains ma personne, je ne suis rien. Et je soumets ma volonté à ta divine royauté. Une dernière fois, j'abandonne. J'abandonne entre tes mains ma personne, je ne suis rien. Et je soumets ma volonté à ta divine royauté. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, pour ce temps devant toi. Merci parce que, Seigneur, tu as pris acte, Seigneur, de nos choix, de nos décisions, de ce qui s'est passé dans nos cœurs. Et je te rends grâce pour cela. Merci pour ta parole, qu'elle fasse son effet dans notre cœur, dans mon cœur, qu'elle puisse descendre au plus profond de notre âme, Seigneur, pour nous amener plus loin avec toi. Seigneur, merci parce que tu es patient avec nous. Tu es patient avec moi. Seigneur, je ne veux pas jouer avec ta patience, Seigneur. Alors, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Garde-nous dans ta paix. Garde-nous les yeux fixés sur toi, plus que jamais. À ton nom soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse un mardi soir.